France Culture, 18h52 en musique. On parle maintenant de Picasso. Picasso qui n'a jamais été naturalisé français. C'est ce que nous apprend, ou nous confirme en tout cas, l'historien de l'art Annie Cohen-Solal dans un gros livre qui vient de paraître, Un étranger nommé Picasso chez Fayard. Alors on la connaît comme biographe de Sartre et auteur de Un jour ils auront des peintres sur l'histoire de l'art aux États-Unis. Et dans son nouvel ouvrage Annie Cohen-Solal, avec elle on retrouve ce monde marqué par le MoMA et les grands collectionneurs comme le marchand d'art juif allemand Daniel Henry Kahnweiler. Ce livre original est intéressant sur la condition d'étranger difficile, même quand on s'appelle Picasso, le plus célèbre peintre du XXe siècle, se voit d'ailleurs refuser tout simplement la nationalité française en 1940, avant que le général de Gaulle et Malraux la lui reproposent quelques années plus tard, mais ce coup-ci, ça ne l'intéressera plus. Au cours de ce long reportage, vous entendrez les voix de Picasso, avec son accent à couper à la fourchette, tendez bien l'oreille, ainsi que de François Hollande et le marchand d'art, donc Kahnweiler, justement, et bien sûr Annie Cohen-Solal, qui revient sur cet itinéraire complexe de cet homme siècle, l'artiste Picasso, à partir de son arrivée en France.
Ah oui, alors ça, son arrivée en France, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Picasso?
Très tôt, donc 1900.
Il arrive en 1900 pour l'exposition universelle, il n'a pas 18 ans, il est déjà considéré comme un génie dans son entourage et il a un tableau. Il arrive, mais comment arrive-t-il? Il arrive chaque fois, quatre fois de suite, 1900, 1901, 1903, 1904, avec des copains catalans qui l'escortent et qui parlent pour lui, qui lui choisissent un appartement, etc. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire que ce génie, jeune génie qui arrive à Paris, parce qu'il est absolument fasciné par la place de Paris dans l'avant-garde, etc., malgré les conflits avec l'Académie. Et puis en fait, et je me suis donc rendu compte de l'impuissance qu'il avait, de la dépendance dans laquelle il était, de ses copains catalans. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait pas la langue, ni les codes de la ville. Donc, il va tâtonner, et on sait bien, quand on a fait un peu de sociologie, qu'un étranger pénètre dans un nouvel espace comme dans un labyrinthe. D'ailleurs, on le voit, les tableaux de Picasso de cette époque montrent beaucoup d'aveugles. Donc, il tâtonnait. Premier ami, Max Jacob, qui lui enseigne le français comment ? Par des poèmes de Verlaine. Deuxième ami, Guillaume Apollinaire, qui est très en avance sur lui et qui bourlingue, qui a déjà bourlingué, etc. Et puis, Max Jacob Apollinaire, c'est la famille Stein. Ce sont des expatriés américains qui ne vont jamais apprendre le français, que Apollinaire va décrire comme des milliardaires en sandales, parce qu'ils sont très atypiques, et qui lui donnent ses premières sommes avec lesquelles il va vivre. Donc voilà, donc ça c'est le premier Picasso, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un dossier de police est constitué contre lui dès le deuxième voyage, c'est le 18 juin 1901. Comment ce dossier de police est-il constitué contre lui? Parce qu'il y a un très bel article sur l'exposition qu'il fait chez Ambroise Vollard, à la Galerie Vollard, un très bel article de Cocchio qui dit « Le jeune Espagnol qui nous transit par ses tableaux, bienvenue à Pablo Ruiz Picasso. »
On le pense anarchiste, bientôt communiste, et c'est ça qui...
On le pense pas. Enfin, c'est parce qu'il habite chez son marchand qui est supposé anarchiste, parce qu'il y a des femmes qui mendient sur ses tableaux, parce qu'il ne parle pas bien le français et parce qu'il rentre tard le soir, le commissaire fait un rapport pervers, alors qu'il y a une critique très positive de son œuvre, mais il y a des ragots de la concierge, donc il met ça ensemble et il pervertit ce rapport positif en un rapport de police infect, où on dit il doit être considéré comme anarchiste. Et donc on voit bien qu'il y a là un piège auquel aucun étranger ne peut échapper, parce qu'il arrive par des copains, ses copains qui sont catalans sont observés, surveillés par les indicateurs de police, et puis le commissaire fait un rapport. Ce rapport-là, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est celui-là qui interdira à Picasso en 1940 de devenir français.
Parce qu'au départ, donc dans les années 10, 20, il n'est pas très intéressé par la nationalité, il ne la demande
jamais,
pas.
Jamais, il n'est jamais intéressé.
Quand il la demande, au fond, la seule fois où il la demande vraiment, on la lui refuse.
C'est ça. Mais alors, pourquoi il la demande le 3 avril 40? C'est parce qu'à ce moment-là, il a peint Guernica, que Guernica... voyage
aux États-Unis.
Pardon, oui, voyage aux États-Unis, dans le monde entier, pour récolter des fonds pour les républicains espagnols, et qu'il a une image extrêmement visible, Picasso, politique. C'est d'ailleurs pratiquement le seul moment où il sera un véritable peintre politique engagé. Et alors, la révolution en Espagne a échoué. Les nazis ont fait cette exposition qui s'appelle Entartete Kunst à Munich en 1937. Donc, il est considéré comme artiste dégénéré par les nazis. Il est considéré comme étranger en France. Les nazis arrivent sur la France. Donc, il est cerné des trois côtés. Le côté allemand, le côté français, le côté espagnol. Et donc, il a peur. Pourquoi a-t-il peur? Parce que, en Espagne, il y a l'exemple de Garcia Lorca, qui a été victime expiatoire. Donc, lui a peur. Et on voit, dans la correspondance de Picasso, que j'ai eu la chance de pouvoir regarder, dans toute sa correspondance, il exprime ses angoisses, mais jamais publiquement, mais à ses amis très proches, on sent que c'est un homme angoissé. Et là, c'est un homme précaire. Il est riche, il est célèbre, mais il est précaire. Il est précaire parce que on expulse les étrangers qui se font trop voir.
Picasso avait choisi la France. La France parce que c'était sa patrie de cœur, celle de la République. C'était en avril 1940. Alors réfugié dans son atelier du quai des Grands Augustins, il reste dans le Paris de l'occupation et demande sa naturalisation. Une enquête se fait, des rapports sont produits, l'administration traîne, ça peut lui arriver, et refuse. Ainsi, Picasso n'est jamais devenu français.
Alors, au-delà de ce refus en 1940 de lui accorder la citoyenneté française, il y a aussi des refus plus multiples, plus récurrents d'un pays qui à la fois va le porter. Il y a ses collectionneurs, il y a les gens qui le défendent, mais il y a aussi un monde officiel français qui ne veut pas de Picasso dans ces années-là.
Oui, il y a deux institutions importantes qui vont le bloquer. La première, c'est la police, et la deuxième, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Il faut revenir sur l'Académie des Beaux-Arts. Alors, Paris attirait les artistes étrangers à cause du Salon des Refusés, à cause de Rodin et de son Balzac.
Du surréalisme.
Voilà, absolument. Mais l'institution majeure dont on connaît l'endogamie, c'est l'Académie des Beaux-Arts, qui est un résidu du grand siècle créé par Louis XIV et qui maintient le « bon goût français », entre guillemets. Donc ce « bon goût français », c'est une force qui va verrouiller à l'extérieur toutes les avant-gardes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand Picasso se met à inventer ce qui s'appellera plus tard le cubisme dès 1907, avec l'aide de Georges Braque, les personnes qui comprennent et qui décodent ce qu'il veut faire, notamment le tableau qui va s'appeler « Les Demoiselles d'Avignon », la première personne, c'est Canveller, qui est un marchand allemand, juif allemand, formé à l'école d'histoire de l'art allemande. Et l'école d'histoire de l'art allemande, c'est très différent de la France. Ce sont des gens qui ont voyagé, et vraiment, on a là donc un conflit de généalogie, quoi. La généalogie de l'histoire de l'art française, qui est très traditionnelle, et les autres.
Il y a aussi la critique qui, au-delà des beaux-arts, il y a aussi une critique qui est très hostile à Picasso dans ces années.
Alors oui, on est dans les vagues de xénophobie qui sévissent en France de 1890 à 1944. Alors ces vagues de xénophobie, elles évoluent au fur et à mesure des crises économiques, des guerres, et donc il y a Camille Mauclerc qui va parler de la peinture française qui est abattardie par ses métèques. Enfin bon, il y a énormément d'articles négatifs. Il y a le président de l'Académie des Beaux-Arts de Lyon, qui va parler de ce monde des arts français qui est vendu aux étrangers, aux Allemands, enfin, voilà. Donc on a une xénophobie quotidienne latente et on a une xénophobie d'État avec l'Académie des Beaux-Arts, quoi, qui est très, très traditionnelle. Et donc on a du mal à... Il a du mal à trouver sa place, puisqu'il est très célèbre dans tout l'Empire hongrois, l'Empire russe et l'Empire allemand avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il est montré par Canveller. Il est très célèbre aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, mais en France, il n'y a rien. Il y a deux tableaux dans les collections françaises. Les villes de région vont s'ouvrir à Picasso à partir du moment où il adhère au Parti communiste français en octobre
1944.
Et avant Paris. Ah, c'est extraordinaire. L'adhésion au Parti communiste français, qui est faite pour des raisons largement opportuniste par Picasso, c'est pour trouver sa place en tant qu'étranger en France qu'il se rapproche du Parti communiste français, va lui ouvrir les portes de tous les musées de province, de région. C'est passionnant. On a Alès, on a Charleville-Mézières, on a Saint-Étienne, on a Boulogne. Les gens s'adressent aux camarades Picasso en lui demandant des œuvres et il les donne, ces œuvres. Donc, merci Picasso, parce qu'il devient un vecteur de modernisation du pays précoce. Je veux dire, on n'a pas dû attendre Jacques Lang. En 81, c'était Picasso qui offrait des céramiques ou des œuvres cubistes au musée de Saint-Étienne, ou au musée de Marseille, ou au musée de Lyon. C'est passionnant, ça, non?
Je dirais avant tout que Picasso est un homme profondément bon, un homme profondément humain, un homme courageux, et vraiment, qui n'a jamais reculé devant rien. D'ailleurs, pour avoir fait cette peinture Il faut toujours se rappeler, je le redirai toujours, qu'il a été seul, 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 quand il a peint les Demoiselles d'Avignon. Picasso, c'est un peintre non seulement exceptionnel, non seulement le plus grand de notre temps, mais aussi de beaucoup de temps, je crois. Un des phares, comme aurait dit Baudelaire, de l'histoire de l'art.
Alors, en 1958, le général de Gaulle, sans doute bien informé, veut pour le coup lui donner la nationalité. Et là, Picasso l'a dit que c'est trop tard finalement.
Oui, oui.
Quel a été le rôle, pourquoi de Gaulle fait ça et quel est le rôle de Malraux dans cette affaire?
Moi, je pense que c'est plutôt, c'est Pompidou qui s'adresse à lui, qui est chef de cabinet de Gaulle, et c'est par Henri Laugier. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est des personnalités méconnues dans l'entourage de Picasso sur lesquelles il s'est appuyé. Ce qui est extraordinaire, c'est l'intelligence réticulaire de Picasso, comment il construit ses réseaux. Et ça, derrière cet étranger qui subissait et qui se sentait précaire, j'ai découvert un stratège exceptionnel. Je trouve que c'est important, parce que on connaît beaucoup d'artistes, mais celui qui a un sens politique, c'est celui qui réussit vraiment. Et Picasso avait ce sens politique. Donc il s'entoure de gens qui vont le protéger, le guider, faire le travail à sa place, l'aider à, par exemple, à communiquer avec l'administration. Dans l'interaction avec l'administration, on sait bien que les étrangers y sont perdus, quoi. Et Picasso, là, il a eu le conseil de cette femme, Marie Guttoli, qui faisait des tapis, dont le mari était sénateur de Philippeville et dont l'amant était Henri Laugier, qui est devenu directeur de l'UNESCO. Et puis, si vous voulez, aussi directeur de cabinet de pas mal de ministères. Donc, c'était lui qui était proche de l'establishment gaulliste. Et puis, dans un premier temps, donc Picasso, à ce moment-là, il a décidé d'offrir 10 tableaux à la France en 1947. On lui donne la carte de résident privilégié en 1948. Merci Picasso. Et après, quand on lui offre à la fois la naturalisation et la Légion d'honneur un peu plus tard, il dit non. Et je dis
pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il a acquis un statut à la fois en France grâce au Parti communiste et dans le monde grâce à son œuvre qui lui suffit. Donc il habite sa position d'étranger parfaitement bien. Et je pense qu'on peut dire pour ça que Picasso est déjà un précurseur de l'anthropologie du XXIe siècle, parce qu'il fonctionne par cercle d'appartenance. Le passeport français ne lui importait plus. Il appartenait à un cercle beaucoup plus vaste. Et Picasso, quand il arrive à Paris en 1900 et qu'il voit le président Émile Loubet qui fait un discours en faisant l'apologie de l'art français et du génie français, Picasso, lui, il arrive d'Espagne avec ses 4 cultures espagnoles, puisqu'il est andalou, catalan, castillan et galicien. Et il est ahuri par cette description du génie français monolithique, centralisé, suffisant. Et donc, il va vivre dans ce pays, mais il va conserver cette pluralité de culture qui est très, très intéressante. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de suivre avec le regard de ce jeune Picasso ce qu'il a ressenti dans cette France-là. Et cette France-là, elle n'était pas marrante, mais il ne l'a jamais dit. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, il ne s'est jamais plaint. Il a été un outil par rapport à la France. En 1955, il choisit de vivre dans le Sud, donc il choisit le Sud contre Paris.
La Méditerranée, vous le dites d'ailleurs.
La Méditerranée, les artisans, il respecte beaucoup
c'est
les artisans.
C'est aussi sa proximité à Barcelone, à l'Espagne, etc.
Mais... Oui, oui. Et il choisit les artisans contre les beaux-arts, et voilà. Et il est content. Et il ne demande plus rien à personne.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus qu'autre part, n'est-ce pas? Je suis mon schéma, ma vie que je ne connais pas et elle suit, elle continue. Le climat m'étant différent, au fond, j'aime beaucoup la Côte d'Azur, quoi, ça me rappelle mon pays qui était méditerranéen aussi et chaud comme ici. Mais enfin, rien de qui m'attire, je ne sais pas, en détail, n'est-ce pas?
Picasso est embrassé par la France de manière très tardive. Et c'est bien sûr Malraux. Malraux fait organiser une très grande exposition qui s'appelle Hommage à Picasso en 1966 au Grand Palais, au Petit Palais et à la BNF, avec 800 œuvres. Et là, magnifique hein, exposition, là, Picasso ne vient pas. C'est à cette occasion que Malraux veut lui donner la Légion d'honneur. Et après, l'idée de génie de Malraux et qui rattrape tout de la période antérieure, c'est de créer cette loi sur les dations, de faire voter cette loi sur les dations le 31 décembre 1968.
Qui va donner le musée Picasso.
C'est exactement ça. Donc à ce moment-là, la France récupère, in extremis, va récupérer à la fois les archives, beaucoup d'œuvres, après la distribution entre les nombreux héritiers de Picasso. Mais c'est vrai que du coup, on pense que Picasso appartient à Paris. Donc il y a un mythe, Picasso, il appartient à Paris, il fait partie du patrimoine national, mais en fait, il n'en a pas toujours été ainsi. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de regarder de manière fine les écarts, les scandales de toute cette trajectoire qui finalement s'inscrit dans une histoire douloureuse de la France. Et c'est extraordinaire. Et il devient bien plus intéressant, Picasso. Il devient beaucoup plus présent, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus émouvant, finalement.
Vous vous apercevez donc que vous avez énormément d'amis.
Oui, c'est ça que je vois. Et c'est rien peut me faire autant de plaisir, n'est-ce pas? Car moi, je l'ai écrit même dernièrement dans un journal, on l'a vu ça. J'ai dit, je ne vis que pour l'amour, et je n'aime que l'amour.
Voilà, à l'instant... On a écouté la voix de Picasso, qui aime l'amour. Juste avant, c'était Daniel Henri Canveller et puis François Hollande des archives INA, choisies par David Pata et montées par notre réalisateur Perret Legras. Le livre s'appelle « Un étranger nommé Picasso », Annie Cohen-Solal, qui est publié donc ce livre aux éditions Fayard. À noter la nouvelle exposition Picasso Rodin magnifique qui a lieu au musée Picasso actuellement à Paris et jusqu'au 2 janvier 2022. Et puis cet automne aura lieu l'exposition Picasso l'étranger dont Annie Cohen-Solal sera la commissaire au musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Donc ce sera donc du 12 octobre au 12 février 2022.